Yes, I take a défaut pour les spéciales dédicaces à tous les auditeurs de CKIA 88.3. Take a défaut pour les.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne.
Africa wants to be free. Ouais, ça c'est le message que lance Tikenja Fakoli, ce chanteur reggae-man ivoirien, rebelle de nature et visionnaire, un homme qui s'engage pour la libération de l'Afrique, pour la lutte contre le néocolonialisme, contre la corruption, contre ce qu'on a appelé aussi la démocrature, cette fausse démocratie. Où il y a la France qui est impliquée, les États-Unis aussi, qui imposent des dictateurs en place pour faire des affaires, pour exploiter les richesses premières. Ah, c'est le combat donc de ce chanteur, Tikenja Fakoli, que j'ai rencontré à Bamako il y a 2 mois. Donc, j'étais dans le cadre d'une recherche sur le Rastafari et sur le reggae au Mali. Et Tikenja Fakoli, donc, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, vit en exil donc, depuis septembre 2002. Et j'ai pu m'entretenir avec lui, faire une entrevue donc, exclusive qui vous est présentée aujourd'hui. Et donc, Tikenja Fakoli, si je le présente un petit peu rapidement, il est né en 1968 à Odjene, donc dans la région du nord de la Côte d'Ivoire. Et il a sorti pas moins de 7 albums. Ici, on peut dire qu'il est connu peut-être pour ses derniers albums, en fait, parce que les premiers albums n'ont pas été distribués en dehors de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique de l'Ouest. C'est plutôt avec son troisième album, Mangécratie, qu'il s'est fait connaître au niveau régional, donc en Afrique de l'Ouest, et puis ensuite en France. Et son album ensuite, Cours d'Histoire, ça lui a permis de devenir lauréat du prix RFI Musique du Monde. Et ensuite, peut-être ce qu'il a fait connaître ici, c'est peut-être plus l'album France-Afrique, qui est un peu un florilège de ses meilleurs titres qu'il a réenregistré à nouveau parce qu'il y avait, comme je vous dis, des albums qui n'avaient pas été distribués en dehors de la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, il vient de sortir, il y a quelques mois déjà en Afrique, mais quelques semaines ici, un dernier album, donc le 7e, qui s'appelle Coup de gueule, où Tikenja est particulièrement féroce avec donc les leaders politiques de ce monde. Il ne mâche pas ses mots. Et je vais vous le faire découvrir. On va discuter ensemble un petit peu de sa carrière, de sa vision de la politique. On va parler de politique ivoirienne, politique africaine. On parle de toutes sortes de sujets, de la jeunesse aussi. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour la jeunesse africaine? Donc, c'est une discussion entre deux Moussa Doumbia parce que mon nom malien est le même nom que le sien. Donc, son vrai nom, c'est Moussa Doumbia, donc descendant de Fakoli. Comme on va parler dans l'émission, vous allez voir, Fakoli, c'était un grand guerrier à l'époque de l'Empire du Mali. Donc, on vous fait écouter cette entrevue avec Tikenja Fakoli sur les ondes de CKIA 88,3. Tikenja Fakoli.
Ça va, et Kakana?
C'est mon Godoum.
Mon Kakana.
Inche.
Ouais.
Donc, je suis en compagnie présentement de Tikenja Fakoli. Nous sommes dans son studio ici à Bamako. Et nous allons nous entretenir un petit peu ensemble pour les prochaines minutes dans le cadre de notre émission à CKIA. Tikenja, bon, aujourd'hui, on vous voit quand même tourner un petit peu partout dans le monde. Beaucoup en Europe, en Amérique, beaucoup en Afrique aussi. Vous faites les grandes salles maintenant, mais quand même, ça n'a pas toujours été ainsi. J'aimerais ça qu'on fasse peut-être rapidement, peut-être une petite rétrospective là, dans vos débuts. Un peu, qu'est-ce qui vous a amené à à chanter du reggae ou à commencer à faire de la musique vers la fin des années 80?
Ben, ce qui m'a amené à faire du reggae, c'est surtout le message.
Mm-hmm.
Voilà, quand j'ai écouté Bob Marley, Bernie Spee, je me suis dit que les sujets qu'ils abordent dans leurs chansons, par rapport à l'injustice, l'inégalité, l'éveil des consciences, la dénonciation du comportement des dirigeants politiques, je me suis dit, mais l'Afrique a des choses à dire par rapport à tout ça. Et il le disait tellement bien, sans forcément agresser, à travers cette musique-là qui s'appelle le reggae.
Ouais.
Et je me suis dit, attends, on a des choses à dire par rapport à ça. Et puis bon, effectivement, à un moment, j'ai commencé à fredonner des mélodies. Mais avant de commencer à commencer à rêver, parce que c'était une étape, c'était l'étape du rêve d'abord, quand tu es dans une ville qui est à presque à 1000 km de la capitale.
À Oudjene, donc à
presque 1000 km d'Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de télé, pas de radio, tu ne rencontres pas de journalistes.
Mm-hmm.
Donc tu ne peux que rêver pour un moment, tu vois, enfin au début. Et puis bon, ce rêve-là a commencé à se concrétiser à partir de 89.
Mm-hmm.
En 89, j'ai créé mon premier groupe et j'ai commencé les répétitions.
C'était les Jellies à ce moment-là.
C'était les Jellies. Mm-hmm. C'est toujours les Jellies. J'ai toujours gardé le même nom. Ouais.
Ouais.
Il y a beaucoup d'éléments. Il y a des éléments qui sont partis, et tout ça. Donc, on a répété de 89 à 91.
Mm-hmm.
2 ans de répétition, presque tous les soirs.
Ouh.
Avec une motivation parce que. Voilà. Mais la motivation, si tu veux, on l'a tirée à travers le fait que. On était loin de la capitale et chacun avait l'amour de son instrument, donc il fallait trouver une solution pour jouer, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on travaille, c'est pourquoi on se retrouvait tous les soirs. Et en 91, on s'est senti prêt pour faire un concert.
Mm-hmm.
Voilà, on était prêt pour faire un concert et donc on a décidé de tout de suite d'organiser le premier concert. Je crois que c'était le 27 août 91. Donc on a organisé le premier concert et tout est parti de là. Voilà. Donc voilà un peu comment ça a commencé.
Il y avait toute cette motivation-là, ce rêve-là qui vous teniez la bout de bras. Et mais quand même, il fallait quand même qu'il y ait des conditions minimales parce que moi, je vois ici des musiciens de reggae, mais ce sont des bassistes, mais ils n'ont pas de basse. D'autres sont des batteurs, n'ont pas de batterie. est-ce que ça a été difficile à ce niveau-là, au niveau matériel?
Ça a été très, très difficile. Ça a été très, très difficile. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir une batterie pour en trouver, je dirais, parce que pour pouvoir jouer une batterie.
Mm-hmm.
Donc on a fabriqué une batterie avec des cartons. Voilà. Et des cartons. Et donc le batteur. Et donc on a coupé les boîtes de tomates. Les boîtes de tomates vides, on a coupé. La fermeture qu'on a accrochée sur un truc, c'est devenu la cymbale, la Charleston, etc. Donc, on est parti comme ça. Les toutes premières répètes à partir de en 89, c'était avec ça. Avec ça. Et donc, on a eu la chance, il y avait des anciens orchestres, des jeunes, il y avait 10 ans avant 89, donc dans les années 70, il y avait des anciens orchestres, donc des vieilles guitares qu'on a retrouvées dans les magasins de certaines personnes. On a fait le tour de la ville, quoi.
Mm-hmm.
Et il y a quelqu'un qui nous dit, ah ouais, mais il y a le monsieur là. Tu sais, il y a l'orchestre qui existait il y a 10 ans. Le chef d'orchestre, c'était telle personne. Le vieux, là, vous allez le voir. Si vous êtes gentil avec lui, ou bien, tu vois, il peut peut-être vous donner des anciens trucs. On a fait le tour, donc on a pu ramasser tout ce qu'il y avait comme ancien instrument. C'est ainsi que, dans cette recherche-là, on est tombé sur une ancienne batterie. Chez un vieux qui n'était pas chef de caisse, mais qui était le responsable du groupe des instruments, du matériel à l'époque. Et donc, on a récupéré tout ce qu'il y avait comme ancienne batterie, ancienne guitare et tout. Et le vieux nous a donné, il nous a demandé quelques frais. Donc, on lui a dit, bon, on n'a pas l'argent, mais on va répéter là. Là, quand on va commencer les concerts, on va vous envoyer un peu d'argent. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a, on a pu récupérer quelques instruments. Mais en 92, on a eu l'arrivée dans notre groupe d'un jeune français qui s'appelait Olivier Tarot. Olivier Tarot est venu avec une guitare électrique et une guitare sèche. Donc, et puis bon, avec lui, on a commencé des démarches. Et avec lui aussi, on a changé la batterie, puisqu'il y a, un autre Français qui était dans une autre ville de la Côte d'Ivoire, qui avait une nouvelle batterie, qui voulait revendre. Donc Olivier a avancé, puisque lui, il était prof et l'enseignait, donc c'était le seul qui bossait dans le groupe. Il a avancé la batterie. Et après, on a fait le concert, on lui a remboursé un peu. Voilà, un peu. Donc, c'était pas évident, mais on était tous motivés. Et donc, voilà, chacun a mis un peu son grain de sel. Et puis, bon, on est arrivé à faire ce premier concert en 91.
Et est-ce que dès le début, vous avez senti la nécessité de diffuser votre message en Joula, parce que justement, vous avez parlé de message tout à l'heure qui était très important dans le reggae, et dans un pays francophone comme la Côte d'Ivoire, peut-être c'est pas tout le monde qui peut avoir accès au message qui provient du reggae jamaïcain en anglais. Donc.
Le début, ouais, le début, si tu veux, au tout début, je chantais à 90%. Anjula. Anjula, ce qui n'était pas très très apprécié, parce que simplement il n'y a pas que des Djoulas en Côte d'Ivoire. Donc il fallait chanter dans une langue qui peut être comprise par tout le monde. Et donc c'était le français. Et donc j'ai commencé à chanter en français un peu plus tard. Mais mes deux premiers albums, donc celui de 93 et celui de 94, était chanté en majorité en Djoula. Voilà. Bon, ça se passait bien, mais sur le plan local, sur le plan régional, tu vois. Mais pour pouvoir accéder à un public plus large, il a fallu que je commence à écrire des chansons en français. Et donc, c'est à partir de 96, c'est l'album qui s'est sorti en 96 qui s'appelle Manger Classy. Et c'est cet album-là qui m'a révélé au grand public. Qui m'a propulsé sur la scène. D'abord africaine, et ensuite qui m'a aidé à avoir une maison de disques, qui m'a permis d'avoir une maison de disques en France.
Comme des chameaux dans des conditions, comme des rois. parlant à une certaine époque, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire constituait la troisième plaque tournante mondiale au niveau du reggae, après la Jamaïque, bien sûr, et puis l'Angleterre. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui.
Bien, évidemment, évidemment, nous occupions la troisième partie, la troisième position, après la Jamaïque et Londres. Mm-hmm. Après la Jamaïque et Londres, je crois que, bon, avec des noms comme Alpha Blondie, comme Serge Cassie, enfin, comme, pardon, Ismaël Isaac, et on a près de 100 artistes reggae en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il n'y a qu'une dizaine qui sont connus d'abord sur le plan national. Mm-hmm. Mais le nombre de jeunes qui veulent faire du reggae, qui rêvent de chanter, qui rêvent de faire... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est comme au Sénégal, par exemple, c'est le rap là-bas, tu vois. Au Mali aussi, le rap commence à... Il y a beaucoup de... Voilà, le hip-hop est très fort ici, en Guinée aussi. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je crois que c'est le reggae.
Dans votre message, quand même, on peut dire que vous avez un message très sociopolitique. Il y en a qui ont même presque attribué la chute d'Henri Conan Bédier à votre album Manger Crassé, mm-hmm. qui diront aussi que l'album Caméléon a précipité la chute de Robert Guille. Bon, aujourd'hui, je crois que votre message est assez clair aussi avec coup de gueule mm-hmm. vous adressez entre autres à Gbagbo, mais pas seulement à lui. Mm-hmm. Quelle est votre analyse présentement de ce qui se passe? Parce que là, il y a une campagne récemment qui parle de tout sauf Gbagbo au niveau des élections.
Je vous dis que, bon, aujourd'hui, il faut saluer le courage des deux leaders politiques qui se sont retrouvés et qui ont signé des alliances. Je crois que c'est le début d'une réconciliation. Mm-hmm. Parce qu'il faut reconnaître que la base de la guerre en Côte d'Ivoire, la base de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire est partie de ces deux partis politiques. C'était d'abord un parti politique, donc il y a eu une situation donc qui a fait que les dissidents ont créé leur parti politique à côté. Mm-hmm. Et donc le fait que ces deux-là se retrouvent, c'est déjà une bonne chose pour les Ivoiriens. Maintenant, les élections. Comment est-ce que organiser des élections en 5 mois dans un pays divisé, dans un pays où tous les jeunes ont des armes? C'est la question que je me pose, moi, en tant qu'Ivoirien, qui connaît la mentalité des Ivoiriens, qui suis né dans ce pays, qui a grandi dans ce pays, qui suis de ce pays, je dirais. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas, actuellement, où on est en train de faire l'interview, moi, je ne sais pas. Je pense que aujourd'hui, le pouvoir en place à Abidjan n'a pas la majorité, ne peut pas gagner ces élections. Mais il n'y a pas beaucoup... La question que je me pose, quel chef d'État africain qui a organisé des élections et qui les a perdues? Il n'y en a pas. Est-ce que tu vois? Il y en a, mais on leur a forcé la main, tu vois? Il y en a, mais le cas du Sénégal, le cas de... Donc, il y a quelques cas, mais il n'y a pas beaucoup qui organisent des élections et qui les perdent. Donc, je suis inquiet parce que le pouvoir actuellement, après tout ce qu'ils ont fait, ne vont pas vouloir lâcher le pouvoir comme ça. Et comme c'est eux qui vont l'organiser, même si c'est, contrôlé ou surveillé par l'opinion internationale, sinon la communauté internationale, c'est ce pouvoir-là quand même qui va l'organiser, qui va donner les résultats, qui va faire le recensement, qui va faire, tu vois. Et donc, moi je suis un peu inquiet à ce niveau, tu vois. Parce que si jamais ce pouvoir s'accroche et qu'ils annoncent qu'ils ont gagné les élections, ben, ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, les deux grands partis politiques du Côte d'Ivoire, donc le PDCI et le RDR, ont une alliance, donc sont ensemble. Donc, ils représentent une majorité. Et cette majorité, on va la priver de sa victoire. Ben, ils vont prendre les armes. Et cette fois-ci, ça va être très, très grave, puisque la dernière fois, c'était peut-être les sympathisants d'un seul parti politique. Et cette fois-ci, ça serait les sympathisants de deux grands partis politiques. Et ça va être la catastrophe. On va aller au point de départ. Parce que le pouvoir actuel a des avions de guerre qui sont en position. Ils vont donner les résultats, ceux qui vont protester, ils vont tirer sur quelques-uns. Et puis, comme les gens n'auront pas complètement déposé les armes, parce que les gens n'auront pas complètement déposé les armes, les combattants, ils ne sont pas fous, ils vont en déposer, et puis il y en a qui vont aller cacher à côté. Moi, mon analyse, je suis un peu inquiet. J'aurais souhaité pour mon pays qu'il y ait une transition de un an, dirigée par un premier ministre de consensus, avec des ministres de tous les partis politiques qui organisent des élections et qui, durant leur mandat, nous parlent que de réconciliation, d'unité, de paix pour la Côte d'Ivoire et de pardon sur un an, tout en organisant tout doucement les élections, et que le premier ministre de consensus ne soit pas candidat. Est-ce que tu vois? Comme ça, pendant les un an, on va désarmer les cœurs, on va désarmer les mentalités.
Parce que je ne suis pas de ton clan. Mon grand-père t'a tout donné. Mon papa a tant sué. Moi je suis né là. Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Prends la racaille. Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille?
Vous êtes en exil ici depuis
2002.
Est-ce que le Mali était un lieu qui s'imposait comme pays d'exil?
Oui, parce que le Mali est quand même l'un des pays les plus stables de la sous-région. le Mali, avec le Mali, j'ai une histoire, puisque je suis mandingue, donc mes ancêtres sont venus soit du Mali ou de la Guinée. Ouais. Et donc, voilà, c'est un peu le pays de mes ancêtres. Et en plus, en troisième raison, c'est que le Mali, Bamako est plus proche de mon village, tu vois, que mon village d'Abidjan, tu vois. Donc, ma mère étant au village... Et donc, voilà, étant à Bamako, elle peut venir en une demi-journée. Elle prend la route le matin ou plus tard à 13h, elle est ici. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais je crois que la vraie raison, c'est que c'est l'un des pays les plus stables. Et puis, c'est un pays qui a une histoire, quoi. Je suis chez moi ici.
Ouais.
Voilà, je suis chez moi ici. On peut le constater partout, voilà.
C'est d'où je viens. Alléluia. Eh, 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 eh.
Alléluia.
Alléluia. Eh, 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 eh.
Alléluia.
Y'en a qui sont les descendants de Bakongo, y'en a qui sont les descendants de Sayara, y'en a qui sont les descendants de Mandjoutouré. Moi je suis celui de Fakoli Kumba, on est Fakoli Daba.
Vous parliez de vos origines, du fait que vous êtes. Vos origines sont mandingues. Vous êtes descendant de Fakoli, le grand chef guerrier. Aujourd'hui, est-ce que dans le fond, vous poursuivez un peu son œuvre, mais avec une autre arme qui est finalement le reggae d'une certaine façon?
Bien sûr. Mon ancêtre a été quelqu'un de très, très important en 1235, lors de la libération du peuple mandingue contre un autre empereur qui s'appelait Smangourou Kanté, qui avait annexé l'empire de mes ancêtres.
Nous te remercions pour la victoire de 1235 à Kirina, Sundiata Ambifora.
Et donc il y a eu une guerre de libération et mon ancêtre a été quelqu'un de très important parce qu'il était le lieutenant de guerre de l'empereur Sundiata Keïta. Donc, et il était en plus le neveu de l'adversaire de Sundiata Keïta, c'est-à-dire que Smangourou Kanté dont j'ai parlé, Fakoli était son neveu. Mais il a quitté son oncle pour venir combattre aux côtés de Sundiata parce qu'il trouvait que son oncle n'était pas sur le chemin de la justice. Donc,
voilà,
il n'aimait pas la manière de faire. Et donc, aujourd'hui, effectivement, moi je suis sur les traces de Fakoli Kumba, Fakoli Daba. Et j'utilise pas les flèches comme lui, j'utilise le reggae. J'ai dit ce que je pense et il se trouve que tous ceux qui sont victimes d'injustice se trouvent très souvent dans ce que j'ai dit, se retrouvent dans ce que j'ai dit et sans voilà, c'est ainsi que souvent les gens ont l'impression que on dit que je soutiens les rebelles, je soutiens tel chef parti politique, je dis les gens quand ils sont victimes d'injustice se retrouvent dans mon message. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand il était dans l'opposition, il se retrouvait dans mon message. Comme il est au pouvoir aujourd'hui, il n'est plus dans le cadre de mon message. Voyez un peu. Ouais. Donc, voilà, je suis sur les traces de mon ancêtre. Et je pense que je suis sur une bonne trace. Voilà.
Thank you.
jamana mina doya kokwa kale musominara godoya kokwa kale fa jamana mina suma woroborila suma woroborila suma woro kante borila
De messages, justement, on peut dire d'une certaine sorte que vous exprimez la révolte d'une certaine façon de la jeunesse, ou bien le ras-le-bol de la jeunesse par rapport à la chose politique, parce que quand on voit vos spectacles, ça galvanise la jeunesse, les jeunes sont bien énergisés et tout ça. Et, mais comment vous pensez que c'est possible de canaliser cette énergie-là, l'énergie des jeunes, parce qu'on a vu ici des débordements comme lors des émeutes du 27 mars, s'exprimer à quelque part un ras-le-bol au niveau de la situation sociale, peut-être, ou socio-économique. Selon vous, quelle solution on pourrait amener à la jeunesse, quoi?
Ben, la solution que la jeunesse attend du gouvernement malien, c'est la même solution que beaucoup que les jeunes des autres pays attendent. Il faut trouver une solution pour que les jeunes puissent préparer leur avenir. Il faut qu'au niveau des études, ils aient des garanties que quand ils vont finir les études, ils vont bosser. Ou bien ceux qui n'ont pas forcément fait des études, il faut trouver une solution en tout cas pour qu'ils trouvent des emplois. Mm-hmm. Est-ce que tu vois? Donc il faut créer des emplois. Il faut occuper les jeunes. Tu vois? Il faut occuper les jeunes tout en les permettant de vivre de ces occupations-là. Voilà. Mm-hmm. Grâce à ces occupations-là, je dirais. Des occupations-là. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ce que les jeunes attendent. Et malheureusement, vous savez, bon, en Afrique en général aujourd'hui, on ne vient pas à la présidence avec un programme, on vient pour être chef. Voilà. Et c'est ainsi dans beaucoup de pays aujourd'hui. Donc les gens, ils ne viennent pas parce qu'ils ont des idées pour leur pays. Ils ne viennent pas parce que ils ont des possibilités de sortir leur pays de où ils l'ont trouvé, vous voyez. Mm-hmm. Et donc, ça fait que, bon, ils n'ont pas de solution, mais ils s'arrangent pour être élus. Et puis quand ils sont élus maintenant, eh bien, quand on est président, il faut former un gouvernement, il faut trouver les gens qu'il faut, il faut trouver des solutions à tout le plan du pays, c'est ce qu'il faut faire. Et donc je pense que c'est ce qui a fait que le peuple s'est énervé la dernière fois à Bamako, après un match de foot. Ils ont exprimé un peu leur ras-le-bol, comme on dit, et je crois que c'est comme ça dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, malheureusement. Et j'espère, c'est d'ailleurs le but de notre lutte aussi, c'est essayer de dénoncer le comportement de ces hommes politiques qui pensent que être président, c'est simplement occuper le fauteuil, nommer des ministres et attendre les prochaines élections.
Sunjata Ambifora. Ton ancêtre s'appelait Bilal Boulama. Bilal Boulama, suivi de la Wallo. La Wallo a été suivi de la Talkalabi. La Talkalabi, Damal Kalabi. Damal Kalabi, Laylatul Kalabi. Laylatul Kalabi, Kalabi Bomba. Kalabi Bomba, Mamadou Kani. Mamadou Kani, suivi de Tonyon Kele. Tonyon Kele, Bali Nene. Bali Nene, suivi de Belo. Belo, suivi de Belo Bakon. Belo Bakon, suivi de Mangan Konfata. Mangan Konfata, Sundiata Keita. Sunjata Keita, Ambefora.
Puis votre reggae a aussi quelque chose de, on pourrait dire, de plus engagé, parce que vous conscientisez aussi la jeunesse à la chose panafricaine, aussi à l'histoire, comme l'album que vous avez fait, Cours d'histoire, où vous déclinez les ancêtres et tout ça, les grands chefs qu'il y a eu. Donc, est-ce que ça, c'est un peu une mission que vous vous donnez d'éduquer, si on peut dire, à travers un moyen qui est quand même populaire?
Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs le rôle primaire du reggae. Le reggae, c'est une musique d'éducation, d'éveil de conscience, d'information. Mm-hmm. Et voilà, c'est une musique qui a décidé d'être la voix des sans-voix. Mm-hmm. Et voilà, et donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc je me trouve sur le chemin tracé par Bob Marley, par Bernice P. Voilà. C'est une musique populaire, c'est une musique qui a été créée par des enfants qui sont nés dans des quartiers populaires et qui ont décidé de faire, d'être les porte-parole de ces populations-là, de cette majorité qui souffre. Et donc, voilà, je pense que c'est ce que j'essaie de faire à travers ma musique. Mm-hmm. Mon rôle à moi aussi, c'est de démystifier ces dirigeants-là. Dire que c'est grâce à nous qu'ils deviennent présidents quand même.
Bien sûr.
C'est nous qui allons voter, même si nos voix ne sont pas forcément prises en compte la plupart du temps, en tout cas dans les pays africains. Mais c'est quand même nous qui décidons de faire d'eux des présidents. Donc ce sont nos employés, c'est nous qui les avons mis là. Et ils sont dans les grosses mercedes, ils ont des escortes, mais ce sont nos employés d'abord. C'est nous qui les avons mis là. Le salaire qu'ils touchent, tout ce qu'ils touchent, ça vient de notre poche. Voyez un peu. Si nous, on n'existe pas, et ils n'existent pas. Donc, notre rôle à nous, c'est de faire un peu la promotion de la liberté d'expression. Dire que les gens arrivent à s'exprimer comme on s'exprime chez vous. Je pense que quand je dis par exemple quitte le pouvoir, il y a beaucoup d'Africains qui ont envie de dire à leur président de quitter le pouvoir. Mais ils n'ont pas la possibilité de le dire, ils ne peuvent pas le dire parce que simplement ils risquent de se faire arrêter. Mm-hmm. Voilà. Et moi j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire ça et ne pas être forcément. Voilà, inquiet, je dirais.
Malgré différents gouvernements, depuis 40 ans,
Vous vous êtes jamais caché aussi de dire que vous êtes musulman,
monsieur.
Mais sans toutefois avoir peur de dénoncer les choses qui ne vont pas dans l'islam.
Bien sûr, bien sûr. Non, je crois que c'est important de dénoncer le comportement des religieux qui pourraient aujourd'hui normalement apporter que des trucs positifs dans le cœur des gens, puisque les gens, les Africains croient vraiment en Dieu.
Mm-hmm.
Tu vois, ils croient en Dieu, ils sont à fond dedans. Je crois qu'ils sont un peu plus à fond même que les Arabes, okay, et les Arabes, et les, tu vois. Mm-hmm. Quand les Africains sont chrétiens, ils sont à fond. Ils sont musulmans, ils sont à fond. Bon, c'est vrai qu'ils ont leur petit gris-gris à côté, mais ils sont vraiment à fond, quoi, tu vois. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe en Afrique, les religieux auraient pu mettre les choses à leur, tu vois, si eux, au moins, ils restaient corrects. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a toute une mafia qui est organisée autour des religions, toute une escroquerie. On profite de la pauvreté des gens pour les faire rêver des choses, et on prend le peu d'argent qu'ils gagnent. Et je pense que c'est des trucs qui méritaient d'être dénoncés. Je sais que c'est un sujet tabou. Mmh. Quand j'étais en train d'écrire cette chanson, je me suis dit, attends, personne n'a critiqué encore les religieux. Et est-ce que tu vas avoir des problèmes? Mais comme je me prends les risques, et puis bon, je me dis, il faut des gens pour dire des choses.
Mmh.
Moi, je pense que, bon, voilà, voilà, mon inspiration, il vient, et puis bon, je le dis, quoi. Donc je crois que c'est important. C'est important, cette chanson, elle est importante parce que j'ai dit ce que je pensais de christianisme, j'ai dit ce que je pensais des musulmans aussi.
Mm-hmm, c'est
ouais.
Des deux côtés.
Ouais, ouais.
Les pasteurs ont construit des églises partout pour acquêter ni n'ayons fort, ni n'ayons fort, ni n'ayons fort.
Rastafari, bientôt la révolution de la jeunesse africaine. Prêt à dire non, non et non.
Et puis dans vos premiers albums, parfois on pouvait entendre Ja Rastafari ou même des fois dans les spectacles. Quelle est votre vision par rapport à cette philosophie-là, par rapport au Rastafari? Comment vous vous situez par rapport à ça?
Moi, je pense que je suis plutôt pour un mouvement Rastafari.
Mm-hmm.
Un mouvement Rastafari, c'est vrai. Dirigé par Haïlé Selassie, mais animé par les actes posés par Marcus Garvey. Marcus Garvey qui a lutté pour le rapatriement des Noirs, Marcus Garvey qui a lutté pour l'éveil des consciences, Marcus Garvey qui d'ailleurs a annoncé le couronnement d'Haïlé Selassie plusieurs années avant. Donc, moi je dis que je respecte tous les Rastas qui pensent que Haïlé Selassie est leur dieu, est le Jésus noir, etc. Il y a beaucoup de choses qui se disent, tu vois. Mais moi, je suis quelqu'un qui croit un peu à ce que je touche, tu vois. Tu comprends? J'ai beaucoup apprécié le combat d'Haïlé Selassie par rapport à l'unité africaine, par rapport à tout ce qu'il a fait pour son pays, par rapport à la résistance aux Italiens, par rapport au fait que son pays n'a jamais été colonisé, etc.
C'est une figure incontournable quand on parle de panafricanisme.
Voilà, quand on parle de panafricanisme, on ne peut pas ne pas parler d'Haïlé Selassie, tu vois. Mais, voilà quoi, donc, tu vois, je préfère parler d'Haïlé Selassie comme ça, comme un homme, tu vois. Un homme qui a posé des actes. Mais j'ai pas envie de parler de lui comme un dieu, comme quelqu'un qui... Tu comprends un peu?
Vous avez pas envie de le mystifier?
De le mystifier, voilà. Pour moi, c'est un responsable politique comme tous les autres, mais qui a posé des actes de panafricanisme importants, qui a tracé le plan de la sortie des crises de l'Afrique depuis très longtemps et qui malheureusement n'a pas été suivi par les autres dirigeants politiques, voilà.
Thank you.
si on fait un tour vers Addis Abeba, récemment, on fêtait le 60e anniversaire de la naissance de Bob Marley. Bon, vous l'avez dit un petit peu en début d'entrevue, Bob Marley, ça a été un incontournable, quelqu'un qui vous a influencé. Aujourd'hui, quel est le regard que vous avez sur l'homme plus de 24 ans après sa disparition?
Mais Bob, c'est un peu comme notre prophète à nous. C'est grâce à lui que cette musique-là a pris cette ampleur. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, Tikenja existe, que Alpha Blondy existe, que voilà. Parce que, voilà, c'est vrai qu'il n'était pas seul, mais vous savez, son étoile a brillé plus que l'étoile des autres. Et c'est comme autant de prophètes, etc. Peut-être qu'il n'était pas forcément seul, mais. Ils ont eu peut-être la lumière de, voilà. Donc c'est pourquoi je pense que quand j'ai appris que les gens devaient organiser l'anniversaire de la naissance de Bob Marley, c'est quelque chose que j'ai, une initiative que j'ai saluée parce que je pense que Bob le mérite. Et il mérite franchement que sa naissance soit fêtée, il mérite que sa mort soit fêtée. C'est quelqu'un qui est... C'est l'un des hommes les plus connus aujourd'hui dans ce monde. Tu vas dans un petit village du Japon, les gens ils écoutent du Bob Marley. Partout, tu vois, c'est effrayant. Donc voilà. Donc Bob, il est très important pour nous. C'est notre prophète, voilà.
Même, on pourrait dire votre père spirituel.
Exactement.
Kenja, on espère vous voir prochainement à Montréal. Et puis, on vous souhaite bonne continuité dans vos projets ici à Bamako et ailleurs. Bonne continuité aussi dans votre studio. Et merci beaucoup. Nietzsche Kosové.
Merci Moussa Doumbia. Et on se voit au Francophonie de Montréal.
Oui. À la Kanyugoyen au
Amina, ça va être un grand show parce que la dernière fois que je suis passé, c'était à Nuit d'Afrique, je crois que c'était en 2000. Et j'avais trouvé un public québécois très accueillant, très... Ils ont beaucoup apprécié ce que je faisais. Pendant deux semaines, quand j'étais là-bas, j'ai été numéro un reggae à MVG. Comment s'appelle le magasin? MVG, non? Le magasin comme la FNAC en France.
C'est HMV.
HMV. Et ça s'est bien passé. Donc, voilà. J'ai hâte de revenir au Canada.
Bienvenue.
Merci.
On souhaite vous voir bientôt.
OK.
Anche.
Au revoir.
Donc, vous avez entendu cette entrevue réalisée avec Tikenja Fakoly. On était à Bamako, dans les studios de Tikenja, donc sur la rive sud de la capitale malienne. Donc, Tikenja, comme vous avez pu l'entendre, qui est très engagé politiquement dans son discours, qui continue à se battre justement pour que la justice règne. Et bon, quand il parlait de la Côte d'Ivoire, on espère que ses pronostics ne seront pas réalisés, c'est-à-dire que ce ne soit pas une nouvelle guerre civile qui éclate en Côte d'Ivoire, parce qu'on a annoncé récemment le 9 juillet le désarmement à Yamoussoukro, donc la capitale de la Côte d'Ivoire, donc le désarmement entre l'armée ivoirienne et la rébellion des forces nouvelles, et qui est au nord là, finalement, et puis qui contrôle le pays depuis la tentative de coup d'État de septembre 2002. Et puis bon, l'Union africaine et l'ONU ont prévu des sanctions contre les parties ivoiriennes qui ne respecteraient pas leurs engagements et qui bloqueraient le processus de paix. Donc, on espère que la paix va revenir en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays avec une belle culture et tout ça. On souhaite jamais la guerre dans les pays, et puis quand il y a la guerre, ça se ressent toujours dans les pays voisins comme au Mali. Donc, on espère que la paix va revenir et que les hommes politiques vont revenir à la raison. Ces grands enfants, ces belligérants qui aiment jouer à la guerre et avec leurs gros canons, leurs gros fusils. Donc, c'était une entrevue avec Tikenja Fakoly. Si vous êtes de passage à Montréal mercredi, ne le ratez pas. Il sera au Spectrum, donc à 19h, dans le cadre, donc, comme je l'ai dit, des Francofolies. Donc, c'était Pascalo pour l'émission Collectivo. Passez une belle fin de semaine, et puis ne ratez pas la prochaine émission, donc La vie de quartier. Au plaisir.